partie des campeurs pour la paix qui sont venus à Genève avec la marche des femmes de Berlin. Enfin, tu es une campeuse pour la paix, pas un campeur. Et tu fais partie de ce petit groupe de gens qui n'a pas voulu repartir de Genève, qui a décidé de rester, malgré le froid et malgré le fait que tout le monde voulait vous chasser. Alors moi, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi vous voulez tellement rester à Genève. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette ville que vous ne voulez pas du tout la quitter?
D'abord, il me faut dire que c'est un peu difficile pour moi de parler en français, mais je vais essayer. Alors, oui, je suis une des femmes qui est venue à Genève avec la marche pour la paix. Nous sommes arrivées ici au septembre. Nous avons eu une raison pour aller à Genève, et cette raison, ce sont les négociations entre les puissants des États-Unis et de l'Union soviétique. Et nous croyons que la situation maintenant est très, très dangereuse et peut-être aussi très folle. Je crois les puissants de l'Union soviétique peuvent maintenant tuer chaque personne de nous 20 fois. Et les Américains peuvent nous tuer, chaque de nous, 30 fois. Alors ensemble, ils nous peuvent tuer 50 fois et nous croyons que c'est assez. Et maintenant, on veut agrandir cette possibilité avec le Pershing, avec le cruise missile, avec le SS-22. Et nous sommes aller à Genève pour être près des négociations. Les négociations de INF et de START sont suspendues, pas terminées, et nous sommes restés ici comme une forme de vigilance pour dire ou pour donner un signal de continuer avec ces négociations. Au fin du mois de novembre, on a suspendu les négociations et pour nous, c'était une situation un peu difficile de retourner chez nous ou de rester ici à Genève. Nous avons discuté assez longtemps. Et nous croyons que nous avons lutté maintenant pour presque 3 ans. Il y a 1 million de gens qui ont lutté. Il y avait des marches pour la paix. Il y avait des jeunes, des gens qui ont fait cette jeûne pour la vie. Il y avait des gens qui ont jeûné presque jusqu'au point de mourir. Et il y avait milliers de gens qui sont allés aux prisons, des gens très, très normaux et qui ont été pour quelques jours, qui ont été pour quelques jours ou quelques semaines aux prisons. Il y a des gens qui ont quitté leur travail pour lutter tous les jours contre ces missiles. Et nous pensons que maintenant, on ne peut pas retourner à la vie normale. Et maintenant, nous avons essayé de dire, nous ne voulons pas les cruise missiles, les Pershing, les SS-20. Et les cruise missiles sont arrivés à Greenham Common. Ils sont à Sigonella, en Sicile, pour aller à Comiso. Ils sont maintenant à Mutlangen, en Allemagne. Et on ne peut pas dire, bien nous avons lutté pour 3 années, nous avons perdu cette lutte, ils sont gagnés et on peut continuer la vie ordinaire, parce que la situation n'est plus ordinaire. C'est une situation qui peut, on peut avoir une guerre, et même par accident, très très vite. Alors, il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire quelque chose de différent.
Est-ce que tu peux nous parler justement du mode d'action des camps pour la paix? Parce qu'en fait, bon, à Genève, il y a un camp pour la paix qui essaye de s'installer quelque part, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant, il y en a des tas d'autres en ce moment dans le monde. Et moi, ça me paraît un mode d'action assez nouveau, assez spécifique, disons, du mouvement pacifiste. Et j'aimerais bien savoir un petit peu justement quelle est l'histoire de ces camps pour la paix. Est-ce que vous avez aussi des relations avec les autres camps? Et quelle est la signification justement de ce mode d'action qui consiste à s'installer quelque part et puis à plus bouger pour être un espèce de symbole vivant en fait d'un refus? Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, disons, d'abord, comme au premier niveau. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, du mode d'action?
Oui, pour moi, c'est un peu drôle que je suis maintenant une campeuse pour la paix, comme on dit ici dans les journaux. Il y a une tradition des camps pour la paix, et il y a plusieurs des camps pour la paix dans tout le monde. Il y a le camp pour la paix en Angleterre, à Greenham Common, je crois que c'est le camp le plus fameux. Il y a un camp en Australie, c'est aussi un camp des femmes. Il y a des camps aux États-Unis, à Comiso en Italie, à Mutlangen en Allemagne. Je crois que l'origine de ces camps est toujours la même. On va à une place où il y a des décisions politiciennes, où il y a des décisions de politique, où on veut stationner des missiles et on veut être très à côté de cette place. Alors, on ne peut pas aller dans une maison, mais il faut trouver une autre façon de vivre là. Mais on a aperçu aussi que vivre dans une autre façon est aussi une chose politique, parce que notre vie normale, notre vie ordinaire contribue aussi à cette situation que nous avons maintenant. La vie normale, comme nous vivons ici, surtout les petites familles dans les petits appartements ou les petites maisons, est très, très isolée. Et comme nous avons vécu dans ce camp pour la paix, nous avons vécu dans un groupe ensemble et c'était un groupe très très intéressant parce que nous sommes des pays différents, nous sommes des 6-7 pays différents, ça veut dire nous parlons des langues différentes, nous avons toujours un problème de communiquer entre nous, mais ça marche maintenant depuis 4 mois, nous vivons comme ça. Nous avons des cultures différentes, des âges différents, des classes sociales différentes, nous sommes des hommes et des femmes, et il y a des gens avec du travail et sans travail, et vivre ensemble dans un groupe comme ça, et vivre très très simple. Nous voulons aussi essayer de trouver des formes de vivre ensemble différentes, avec une différente relation entre des gens et entre des êtres humains et la nature.
Alors justement, ce choix, par exemple, de s'installer à la campagne Rigaud, d'y passer tout le mois de décembre, qui apparaît vraiment un peu fou quand on est un habitant de Genève et puis qu'on a une maison et tout ça, on se dit, mais ils sont complètement fous de rester dans ce parc, ils vont prendre froid, ils n'ont rien et tout. Bon, il y a un côté... Il y a un côté fou, justement, qui, moi, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire que je pense que c'est justement en faisant des choses un peu folles comme ça aussi qu'on arrive à, disons, je pense, à toucher un certain nombre de gens. C'est effectivement autre chose que d'écrire dans un journal, que de faire des réunions. C'est sur un mode de relation à la politique qui est complètement différent. Effectivement, on voit qu'il y a des gens qui s'engagent comme ça 24 heures sur 24 et qui font des choses complètement... qui n'ont pas de sens au niveau du sens commun, c'est-à-dire par exemple d'aller vivre sous une tente au mois de décembre à Genève, c'est complètement insensé. Mais bon, je pense que ça. C'est aussi ce qui fait la force, je pense, des campeurs pour la paix, c'est que c'est des gens qui risquent leur confort, leur vie quotidienne. Mais il y a un côté. Bon, il y a un côté. Il y a un côté ambigu là-dedans, parce que je pense qu'il y a énormément d'énergie des campeurs pour la paix qui passent justement à organiser leur propre survie. Et puis je pense qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver, non, entre arriver à résister au froid, à la pauvreté du camp et tout ça, et puis quand même arriver à faire des choses. Enfin, je ne sais pas si toi tu as ressenti cette ambiguïté-là dans ce mode d'action.
Je crois, je comprends cette ambiguïté et je vais essayer d'expliquer comment je me sentais quand j'étais là. Alors j'ai habité dans le temps et en novembre, il faisait très froid et nous avons eu 7 ou 8 degrés sous zéro. Alors ça, c'était très froid. Froid. Mais je crois qu'il y a deux choses, non trois choses, qui sont très importantes pour ça. C'était dur, mais pour moi, c'est plus dur ou plus difficile de vivre maintenant seul dans un appartement. Parce que nous avons commencer à penser de la situation nucléaire. Et c'est très, très difficile parce qu'on commence et on veut s'arrêter. On ne veut penser plus de ça. Et je crois, ça c'est maintenant. Et ça, c'est maintenant la situation la plus difficile. Les gens ont peur de penser de la situation nucléaire. Et je crois qu'il y a trois raisons
pour lesquelles vous êtes resté.
Oui.
Ouais.
Et le premier est une raison très, très général. Quand on commence de s'occuper avec les problèmes de menaces nucléaires, il y a un point où on devient très timide, où on a du peur. Et parce que c'est si difficile de penser à cette situation, c'est si difficile de se souvient d'Hiroshima, de Nagasaki, des guerres, des guerres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils passent quand il y a une guerre? Ou des situations avec toutes les bombes nucléaires. Et seulement penser de ça est si difficile. Et je crois pour beaucoup de gens, et nous aussi, préfèrent de ne penser pas de ça. C'est plus facile de ne penser pas de ça. Alors on s'arrête penser. Et on sent que la vie devient plus et plus... comment ça s'appelle?
Étroite.
Étroite, étroite, oui. Parce qu'il y a trop de choses qui sont trop dangereuses pour y penser. quand on commence à penser de ça, on essaie de s'arrêter parce que c'est si difficile de penser cela. Mais quand on s'arrête, on sent, on sait qu'on s'arrête aussi de voir toutes les choses. Et ces choses sont aussi quelque chose comme la vérité. Et quand on s'arrête de penser de ces choses, on est fait soi-même handicapé. La vie devient plus et plus en droit parce qu'on a peur de penser ça, de penser à une autre chose, de penser. Et cette to lie to yourself.
De mentir à soi-même.
Oui. Et alors, je ne veux plus faire cela. Je veux penser et je veux continuer à penser de ces choses. Et je veux comprendre ces choses. Mais c'est très, très difficile pour l'âme, pour le cœur. C'est très difficile. Alors, on peut continuer à penser quand on n'est pas seul. Quand il y a des autres gens qui pensent aussi de ces choses et on se peut aider. Alors c'est important de penser de toutes les choses dans un groupe. Mm-hmm. Ensemble, on peut parler de Nagasaki, de Hiroshima et des conséquences de Pershing et de grosses missiles. Et la troisième chose, c'est quand on pense, quand on ose de penser ça, et quand on est dans un groupe, alors on peut penser de ça, on doit aussi avoir le sentiment ou la puissance de faire quelque chose. Et il y a des actions très différentes. On peut aller à Washington, à London, à Bonn. On peut s'adresser aux membres du Parlement dans les pays différents, mais on peut aussi s'adresser toujours à les gens, à des négociations, de INF et de START. Et nous avons choisi de nous adresser aux gens des négociations, ici à Genève. Et ça veut dire nous essayons de faire quelque chose. Et c'est une combinaison de tous les trois chose, de penser et parler de ça, de la situation, d'être dans un groupe, ne pas être seul avec tous les pensées terribles et aussi les actions. Et c'est pourquoi cette place où nous avons été était la place pour nous, vivre là en groupe. Et bien sûr, c'était très, très dur de vivre là en tente. Mais pour moi, c'était plus facile de vivre là dans une tente que de rester pour moi-même dans une chambre isolée et de m'arrêter de penser, d'être seule, isolée, quand je veux penser, ou d'être inactive. Et besides this, what's this?
En plus de ça,
d'être là dans les tentes a attiré beaucoup de monde. Et pour nous, c'était plus d'effet que rester dans un bureau. Ici, il y a tant des offices pour la paix à Genève. Alors, faire un autre office, c'est pas du tout effectif.
Et tu viens d'Allemagne et tu as aussi passé pas mal de temps aux États-Unis, donc avant de venir ici à Genève. Et bon, en Allemagne et aux États-Unis, il y a un mouvement de femmes pour la paix qui est assez fort, qui est plus fort, je pense, qu'ici en Suisse. Donc, sans parler peut-être de ce qui se passe à Genève entre les hommes et les femmes à l'intérieur du camp pour la paix ou du mouvement pour la paix ici à Genève, parce que je pense que ce n'est pas très, très significatif. Est-ce que tu peux parler un petit peu en général justement des relations entre le mouvement des femmes, le mouvement féministe au sens très très large du terme, et le mouvement pour la paix? Donc, d'une part, de la place que les femmes prennent dans le mouvement pour la paix, la manière dont elles-mêmes elles mènent cette lutte-là, et puis de la relation entre le mouvement pour la paix et le mouvement des femmes. En parlant peut-être plus justement de ce que tu as pu voir aux États-Unis et en Allemagne.
Je crois que le mouvement pour la paix aux États-Unis est surtout un mouvement pour la paix. Et le mouvement pour la paix en Allemagne et peut-être en Europe est plus un mouvement contre les missiles, contre les Pershing, les cruise-missiles et les SS-20. Et le mouvement pour la paix en Allemagne ou en Europe, on peut dire, je crois, en général, a commencé avec un mouvement des femmes. C'était surtout la marche pour la paix des femmes de Scandinavie, de Copenhague à Paris, en 1981. Et c'était marche pour la paix, pour changer la vie quotidienne, pour trouver une façon de vivre sans violence. Et depuis ça, il y a un développement dans le mouvement pour la paix pour devenir plus un mouvement contre les missiles. Et en même temps, je crois que il y avait plus des hommes qui sont venus dans le mouvement pour la paix, mais qui aussi, comment ça dit, they are going to dominate.
Qui vont dominer?
Oui, je crois, c'est un peu comme ça. Parce que maintenant, il y a bien sûr des représentants du mouvement de la paix, mais ils sont surtout des hommes. Et il y a assez de femmes qui pensent maintenant qu'ils ont lutté ensemble avec les hommes. Mais maintenant, il y a des hommes qui contrôlent le mouvement et qui veulent dire ce qu'il faut faire en général. Pour moi, c'est un assez grand problème en général dans le mouvement. Je crois qu'il y a des femmes, peut-être on peut dire nous en général, que nous avons oublié ou no, I can't say it in French. I think we didn't insist enough on the situation of women. We accepted that we have been dominated by other ideas. We had a lot of different goals, and we all concentrated on fighting against the Pershing and against the cruise missiles, and forget to insist always about the women's goals.
Elle vient de dire que donc elle pense que les femmes n'ont pas assez insisté sur leur situation de femme, qu'elles ont mis tout le paquet sur la lutte contre les missiles et les Pershing, et en fait qu'elles ont un peu perdu la lutte en tant que femme. C'est ça, je crois, que tu veux dire.
Oui.
Donc elles se sont un peu perdues dans le mouvement pour la paix des femmes.
Mais c'est aussi assez difficile pour nous, parce que quand nous voulons lutter pour la paix, je n'aime pas ce mot, lutter pour la paix. Quand nous voulons faire quelque chose pour la paix, il nous faut travailler ensemble avec les hommes. Et moi, je le veux faire aussi. Mais il y a toujours cette différence de puissance entre les hommes et les femmes. Les camps pour la paix, il y a tant de camps pour la paix qui sont les camps pour les femmes. Mm-hmm. Alors ce sont les femmes en Angleterre, aux États-Unis, Et ici à Genève, c'est hommes et femmes qui habitent avec les tentes en hiver au dehors quand il fait froid. Mais ils sont les hommes qui font la politique dans les parlements, qui sont dans les universités, qui sont à la police. Il nous faut...
Moi, ça m'a frappé par rapport à Greenham. Donc, il y a eu toute la lutte contre l'installation des missiles à Greenham. Et puis, la manière dont c'est apparu dans les journaux, en tout cas dans les journaux français, au début, on parlait de la lutte des pacifistes anglais en général. Et puis après, les femmes de Greenham ont pris tellement d'importance, elles ont tellement fait parler d'elles au niveau international, que maintenant, quand il y a une manifestation contre les missiles, on dit les manifestantes, même quand c'est une manifestation mixte. Elles ont vraiment, elles sont apparues, en tout cas au niveau de la scène, de la presse internationale, vraiment comme les chefs de file, comme les leaders du mouvement pacifiste en Angleterre. Mais je crois que ça correspond pas tout à fait à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a des grands problèmes d'autorité, ou je ne sais pas comment dire, de direction du mouvement pacifiste, entre justement les femmes de Greenham qui sont extrêmement autonomes, qui veulent faire leur lutte, et puis tout un mouvement pacifiste anglais qui est, bon, dirigé par les hommes, comme toutes les sortes de mouvements de ce type-là qui existent. Et disons, moi je pense que les femmes de Greenham, c'est très très important ce qu'elles ont fait. L'important, justement, le fait qu'elles se soient, qu'elles aient été si nombreuses, qu'elles aient réussi à être si dynamiques, à imposer leur mode d'action et comme ça, ça a changé, je pense, pour beaucoup de monde, en tout cas, l'image de ce que pourrait être un mouvement politique.
Je le crois aussi, parce que comme femme, nous avons des problèmes comme ça. Et comme nous sommes dans une groupe mixte, c'est très normal de n'écouter pas quand une femme parle. Notre voix n'est pas si forte et on n'écoute pas. Et ça s'est changé depuis l'année passée. Et la deuxième chose est, quand on écoute, on peut écouter maintenant. Mais c'est pas du tout important que les femmes disent. Nous pouvons parler maintenant sans être interrompus toujours, mais ça ne fait rien.
Ça ne compte pas.
Non.
Encore à Genève en 1984.
Je le crois.
Ah,
oui, je le crois. Oui, maintenant encore, c'est encore comme ça. Alors, peut-être on peut dire comme ça. Quand nous parlons comme femmes. Maintenant, nous pouvons parler sans être interrompus. Mais c'est pas sûr que les hommes écoutent quand nous disons quelque chose. Ils sont tranquilles, mais si on l'écoute ou non, nous ne savons pas. Et après, il y a des hommes qui nous soutiennent, qui soutiennent une idée. Quand cette idée est d'un homme, c'est bon. Et quand c'est une idée d'une femme, c'est bon. C'est seulement l'idée qui est importante dans ce moment. Et je crois qu'on peut travailler très bien ensemble avec ces hommes. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a des hommes qui écoutent, mais qui ont des difficultés de soutenir une idée quand c'est une idée d'une femme. Parce que être non coopératif avec les femmes est une habitude très normale pour des hommes. Alors, il y a les deux types d'hommes. Les hommes qui soutient une idée et les autres qui font des discriminations très très subtiles, si c'est une idée d'un homme ou si c'est une idée d'une femme, et qui ont difficulté de soutenir cette idée des femmes. Et les femmes de Green and Common ont commencé de lutter soi-même et ils ont fait des choses très très bonnes. Et maintenant, tout le monde parle de Grossmissel de Greenham Common. Et sans l'action des femmes de Greenham Common, on n'aurait pas parlé de ça. Alors, ils ont fait une chose très très bonne. Mais je crois que c'est difficile aussi maintenant pour quelques hommes de laisser cette résultat, ou peut-être cette victoire, aux femmes. Alors, ils veulent participer. Et je crois que cette situation de concurrence, c'est pas bon, pas du tout. Bon. Et je crois que les femmes doivent faire les actions et je crois que les hommes doivent faire des actions. Et je crois après ce mouvement des femmes, nous avons vraiment besoin d'un mouvement des hommes maintenant. Il faut apprendre, je parle maintenant de ces hommes traditionnels, et il faut apprendre de vivre dans une manière très différente. Je vraiment crois qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes là.
Mais moi, ce que je pense, c'est que les hommes changent que quand les femmes qui sont proches d'eux se mettent à changer. Je ne crois pas que les hommes changent sous une autre pression. Si tu veux que le fait de voir des femmes changer et faire autrement, c'est pour ça que je pense que c'est. Enfin, ça, je dis là, mon avis, quoi. Je pense que plutôt que de dire aux hommes, vous devriez être comme ci, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, je pense que quand des femmes arrivent à se mettre ensemble, et puis à faire quelque chose qu'elles pensent, elles, être juste à leur manière, donc à se changer elles, c'est-à-dire sortir de la passivité, sortir du rôle, tu vois, du rôle secondaire, sortir du rôle plaintif, sortir de la position de retrait qu'on a toujours eue quand même en tant que femme et puis qu'on continue d'avoir. Quand des femmes font ça, eh bien, elles font plus pour faire changer des hommes que n'importe quelle discussion. Enfin, moi, j'y crois vraiment à cette. Si tu veux, je pense que les femmes de Greenham, elles ont plus fait changer les hommes qui étaient proches d'elles, les hommes du mouvement anglais ou comme ça, en faisant ce qu'elles faisaient à leur manière, qu'en passant des heures à discuter et puis à les persuader de changer. Et je crois que les mouvements d'hommes, ils pourront être que, si tu veux, je sais pas, il y a la marée des femmes qui passent et puis ça fait changer un peu d'hommes dans le mouvement. Mais je pense que le mouvement pacifiste, il a ça de particulier, c'est que c'était pas un thème dit féminin. Si tu veux, c'est un peu la première fois que je vois des femmes qui revendiquent de mener de manière séparée une lutte sur un thème qui n'est pas du tout un thème de femmes. Tu vois, nous, on a revendiqué de mener nos luttes en tant que femmes sur l'avortement, sur la santé, sur les enfants, sur tous des thèmes qui se rapprochaient plus ou moins de notre situation de femme, de notre corps de femme. Tandis que cette histoire de paix et de guerre, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde sur cette planète, et pas plus les femmes que les hommes. Et c'est ça qui est très provoquant, c'est qu'il y a des femmes qui disent, oui, sur un thème qui est dit général, qui n'est pas un thème féminin, nous, on veut faire nos choses à notre manière, et en tout cas, pour un temps, sans vous. On veut d'abord faire quelque chose, nous, puis après, peut-être qu'on fera des alliances. Et ça, je pense que c'est ça qui est très, très provoquant et qui est très, très fort, et qui est très important dans cette lutte des femmes de Greenham, des femmes de Comiso. Et je pense qu'il y a aussi eu. Il y a aussi eu ça en Allemagne, non? Mais en fait, c'était une marche de femmes qui est partie de Berlin. Mais comme elles étaient très ouvertes par rapport aux hommes, c'est plein d'hommes qui sont arrivés à Genève. Et puis maintenant, plus personne n'y comprend rien. Et c'est vrai qu'on est obligé, je pense en tant que femme, d'avoir des fois des positions beaucoup plus dures, beaucoup plus sectaires que ce qu'on ressent. On a envie d'être toute l'humanité ensemble, qui donne la main aux femmes, jeunes et vieux et tout. Et puis ça se retourne toujours contre nous. Et puis le résultat, c'est une espèce de soupe pas claire qui fait avancer personne, non? Alors je pense que quand les femmes disent nous, écoutez, on fait nos choses, puis après on verra. En fait, ça fait avancer tout le monde. C'est pas vrai que c'est quelque chose qui va freiner les mouvements. Enfin, moi, vraiment, j'en suis absolument pas persuadée. Je pense que c'est ça qui fait avancer les mouvements. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça?
Je crois que c'est pas à nous de changer les hommes. Nous sommes maintenant très occupés de changer nous-mêmes, et c'est très, très difficile de se changer. C'est vraiment très, très difficile. Mais je crois, nous avons, non, le mouvement des femmes a commencé dans une situation où les femmes se sont disparues. Et quand elles ont senti, il faut changer. Et je crois qu'il y a aussi des hommes qui maintenant sentent que la situation est désespérée.
Désespérée,
oui. Maintenant, j'ai parlé du mouvement de la paix en Allemagne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui maintenant se sont représentatifs du mouvement? Et cet homme font quelque chose comme les politiciens. Il attire la responsabilité et il cherche quelque chose comme puissance. Et quand les hommes apprirent qu'ils ne peuvent pas prendre la responsabilité pour les autres, mais ils doivent laisser les autres vivre comme les autres sont, et ils ne doivent pas être cet homme fort, mais accepter toutes les fragilités. Mm-hmm. Et quand ils commencent à apprendre ça, ça peut changer le mouvement en général. J'ai commencé à dire qu'il y a une différence entre le mouvement pour la paix et le mouvement contre les missiles. Et cet mouvement pour la paix est un mouvement pour une vie sans violence, où la violence devient plus petite. Cette vie sans violence est aussi une violence. Non, on arrête la violence contre soi-même. Et pour moi, cette vie mâle est une vie avec beaucoup de violence contre soi-même. Et il faut s'arrêter aussi pour le changer.
Depuis presque 2 semaines, le camp pour la paix, donc installé dans le hall de l'UNI 2, bien au chaud, Dieu merci, je suis bien contente pour eux, parce que quand je vois la neige qui tombe, je suis bien contente de savoir qu'ils sont à l'abri. J'aimerais que tu nous expliques d'abord pourquoi vous avez eu l'idée de vous installer là, et puis comment ça se passe, la vie quotidienne, comme ça, dans un hall d'université.
Oui, c'est une drôle situation d'avoir un camp pour la paix dans l'université de Genève. Oui, ça passera comme ça. Nous avons été au campagne Rigaud pour 3 mois et nous avons demandé l'autorisation de rester au campagne Rigaud. Et nous n'avons pas eu un répondre. Et après, je crois maintenant tout le monde connaît cette histoire. Il y avait la police et on nous a évacués. Et nous sommes été ici à Genève. Et nous avons discuté comment peut-on retourner au campagne Rigaud parce que nous voulions être très très près des négociations. C'est très important pour nous. Alors, il faut demander le recteur. C'est pourquoi nous avons pensé à aller à l'université. Et nous avons discuté avec les groupes des étudiants et des autres groupes universitaires pour discuter avec le recteur. Et les gens de l'université ont été très, très concernés que le recteur a fait venir la police à l'université, parce que la campagne Rigaud est un terrain de l'université. Et par évacuer le camp pour la paix, ça veut dire aussi que la police est allée entre l'université, le terrain de l'université. Alors nous avons discuté et nous avons décidé qu'il nous faut avoir un terrain pour le camp, et nous sommes allés à l'université et nous avons installé le camp là-dedans. Et maintenant, il y a beaucoup de discussions de ce thème, de la paix, les missiles, et aussi de la responsabilité des représentants des sciences, sciences naturelles, sociales ou quelque chose comme ça, mais de la responsabilité de l'université pour la paix. At least.
Au moins,
nous essayons de discuter ça à l'université.
Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce que vous avez été plutôt bien accueillis, donc pas par le recteur, évidemment, mais par les professeurs, les étudiants, tout ça?
Je le crois, et je veux dire merci à tout le monde qui a nous soutenu. Alors, nous vivons maintenant dans la grande halle de l'université. Et nous avons là des tracts et des livres, et les gens viennent pour voir les livres, pour parler avec nous. Et il y a des gens très différents qui viennent chez nous, et il y a des thèmes très, très différents, parce que ce thème, la paix, est très, très complexe. La paix, ça veut dire la situation stratégique et les négociations, ou la situation entre la menace nucléaire, la responsabilité peut-être des écoles et la situation comme on sait maintenant, et ou la situation en Suisse, la situation en Europe, la situation au tiers monde. C'est très très complexe, ce thème, la paix, et il y a des gens très différents qui viennent chez nous et commencent à discuter avec nous. Alors, nous discutons toute la journée des thèmes très très différents. Et nous avons aperçu ce qu'il y a des gens qui s'intéressent pour ces thèmes. Et nous avons proposé de faire des groupes de travail maintenant sur les thèmes différents. Nous avons fait un catalogue avec 16 thèmes différents. Et nous cherchons maintenant, nous essayons de coordonner les gens qui veulent discuter un thème de ça. C'est quelque chose que nous faisons maintenant dans l'université. Et j'espère que c'est possible de faire ça, groupe de travail sur des thèmes différents. Nous vivons maintenant à l'université, et en vivant à l'université, nous avons appris qu'il y a deux vies presque complètement différentes ici à Genève. Quand nous avons été au campagne Rigaud, nous avons été part de cette vie internationale. Et maintenant, ici à Genève, nous sommes part de la vie suisse. Et C'est difficile à expliquer ce que je veux dire maintenant. Je vais essayer. La Suisse est belle et la Suisse est propre et il y a beaucoup d'argent ici et la Suisse est neutre et il y a une vie ici. Alors la vie est contente, si elle est heureuse, je ne sais pas, mais on est content ici. Et ici, il y a des... C'est l'atmosphère, l'ambiance suisse. Et ici, il y a des négociations. Alors, les négociations sont dans un ambiance,
Dans une ambiance.
Une ambiance est contente, jolie, propre, avec assez d'argent, neutre. Et les représentants de la vie internationale viennent d'une vie très différente. Aux États-Unis, il y a des grandes manifestations pacifistes. Il y avait des grandes manifestations en toute Europe, en Londres, à Bonn, à Rome. Et les politiciens qui sont là, à Londres, à Rome, à Bonn, à Washington, savent ce qu'il y a toujours les manifestations là, au dehors de leur office. Et quand les politiciens vont à Genève, ils vont dans une vie très, très différente, avec cette ambiance contente. Et nous croyons que ça change peut-être un peu la
Mentalité.
mentalité des politiciens, ou ça faiblit un peu le mouvement pour la paix, parce que nous allons toujours à Bonn, à Rome, à Londres pour dire nous ne voulons pas les missiles, et ici à Genève, on parle des missiles. Et cette vie à Genève influence les gens qui parlent ici. C'est pourquoi c'est très nécessaire d'être